Théophile Gautier, Les Marches de marbre rose, mai 1871. Il arrive souvent qu'un motif d'opéra, une ritournelle d'orgue, une phrase de chant tendue par hasard, se loge dans votre tête sans qu'on en ait conscience. On pensait même en ce moment-là à toute autre chose, mais une fibrille du cerveau n'étant pas surveillée par la volonté, s'est emparé du thème et le garde avec obstination. Un souffle le murmure tout bas à votre oreille, et cela devient bientôt une obsession insupportable. Quelquefois, des mots se substituent aux notes et la parole remplace la mélodie. Le cas est plus rare, cependant. Mais l'autre jour, il nous advint de la façon la plus inopinée. Comme nous promenions de la cour de Maroc à l'hôtel des réservoirs, sur le boulevard italien en pente où se réunit le tout Paris de Versailles, écoutant les nouvelles, faisant des conjectures sur les événements, il s'ouvrit tout à coup dans le cabinet de nos souvenirs un tiroir fermé depuis longtemps, et il enroula, pareils aux perles d'un collier qui se défile, ces six mots sur trois marches de marbre rose. C'est comme on sait le titre d'une pièce de vers d'Alfred de Musset. Ils s'emparèrent aussitôt de nous et se mirent à voltiger sur nos lèvres comme un refrain monotone, nous ennuyant à la fois et nous charmant. Mais nous était impossible de les chasser ou d'en distraire notre esprit. On nous disait « La barricade du pont de Neuilly a été enlevée par nos troupes » et nous répondions intérieurement « sur trois marbres de marbre rose. » La nuit même, pendant notre sommeil, des rêves vagues nous chuchotaient cette phrase d'un air moqueur comme pour nous empêcher de l'oublier en dormant. Au réveil, les six mots se dessinaient sur le mur dans un rayon d'aurore et nous recommencions notre inéluctable litanie. Pour tout poète, par son étrangeté, son harmonie et sa couleur, ce titre contient un charme, dans le sens magique du terme, et il agit comme une sorte d'incantation. Mais son effet doit être passager et s'éteindre avec la vibration des syllabes sonores, au lieu de se prolonger en reprises infinies comme l'écho de Simonetta. Il n'en fut pas ainsi pour nous, et le bourdonnement recommençait toujours. Ce qu'il y avait de singulier, c'est que pas un seul vers de cette délicieuse pièce que nous savons par cœur ne nous revenait au bout de la langue. Idées et rimes nous échappaient. Nous en pressentions obscurément la présence comme derrière une gaze noire, mais nous était impossible de déchirer le voile. Le titre seul flamboyait, et nous l'épelions machinalement, répétant la cantinène obligée, sur trois marches de marbre rose. Qui pouvait avoir réveillé cette idée en nous, idée si éloignée de la situation présente? Dans les cas d'obsession musicale, la phrase qui vous hante a été exprimée par un orchestre, un instrument, une voix. On connaît le point de départ de la possession, car c'en est une véritable. Mais ici, rien d'analogue. Personne n'avait prononcé près de nous les mots sacramentels. Nous ne les avions pas vus écrits ou imprimés, nous n'avions pas rencontré sur une table un volume dépareillé de Musset, traîné à travers les exodes et les pérégrinations de la campagne. Peut-être par une correspondance occulte, pour employer la mystique expression de Swedenborg, les trois marches de marbre rose s'étaient-elles mises en rapport avec nous à notre insu. Elles se trouvent dans le parc de Versailles et le voisinage augmentait leur force d'influence. Nous avons d'ailleurs le goût, ou plutôt la passion du marbre, cette noble matière qui sait garder la forme, cette chair étincelante des héros et des divinités, même quand il n'est qu'à l'état de bloc, où sommeille la possibilité d'un chef-d'œuvre. Il doit exister des affinités secrètes entre lui et nous. Ce charmant poète mort, qui de l'extramonde nous envoya à propos le spirit d'estance si ravissante, n'ayant pas de médium sous la main, se servait sans doute de ce moyen pour susciter par une légère vibration son souvenir dans notre mémoire et détachait à notre adresse une imperceptible parcelle de marbre rose. Vivant, il s'inquiétait de la blancheur du paros, au grand scandale des utilitaires, et partageait avec nous cet amour du marbre. Dans ce sentiment commun, non loin des marches sur lesquelles s'étaient fixés ses yeux rêveurs, nos esprits, quoique habitant des sphères différentes, avaient pu se rencontrer, et les mots résumant la poésie et le poète avaient jailli comme un appel, se répétant avec une opiniâtreté fatidique jusqu'à ce que nous ayons compris ce que demandait l'âme flottante autour de nous. Pendant quelques jours, avide de nouvelles, arrachant les journaux aux vendeurs, ne songeant qu'à l'immense drame où se joue le sort de la France, nous essayâmes vainement de chasser ce refrain intérieur importun comme le bruit d'aile d'une mouche obstinée. À la fin, nous sentîmes que l'esprit voulait un pieux pèlerinage et comme une libation de souvenirs sur ce marbre baigné de ses regards, pénétré de sa pensée, attiédi de son amour, qui voyait dans cette neige veinée d'azur et de rose le sein virginal d'une Diane chasseresse. Il fallait qu'un grain d'encens fût brûlé sur cet autel à la pure beauté. Nous commençâmes aussitôt notre excursion. Diverses consignes nous barrant le chemin le plus court, nous prîmes le plus long, sans grand regret. Les poètes ne sont guère pressés d'arriver. Les incidents de la route les amusent et leur font parfois oublier le but. À peine avions-nous franchi la grille que nous nous trouvâmes en pleine solitude. Un calme solennel succédait à la passagère agitation. On sortait du présent pour rentrer dans le passé et toutes les rumeurs s'éteignaient au seuil de ce jardin majestueux et tranquille. Rien de plus beau et d'un dessin plus noble que ce cirque entouré de grands arbres dont le centre est occupé par le bassin de Neptune. Toute l'architecture de la pièce d'eau est ancienne et date de Louis XIV. La décoration en a été faite sous Louis XV par Bouchardon et Lemoine. Le rococo flamboyant n'a jamais tordu les formes, chiffonné les plis et contourné les rinceaux d'une main plus hardie et plus leste. Le Neptune, au milieu de sa cour de Néréides et de monstres marins, brandit son trident d'un air furieux. Plus loin, se faisant pendant, des tritons maîtrisent les hippocampes et sur les branches du fer à cheval, de petits génies qui ont 8 pieds de haut, comme les enfants du ménitier de Saint-Pierre, lutinent des orques chimériques à nageoires onglées. On dirait un décor d'opéra du temps réalisé. Malgré la dépravation du goût, il y a dans l'agencement de ces figures une facilité pompeuse et grandiose d'un bel effet. La teinte mate de ces groupes, coulés en plomb, se marie heureusement au ton gris de la pierre vermiculée et frangée de stalactites, et le ruissellement de l'eau leur donne au jour de fête les luisants et le poli qui leur manquent au temps de sécheresse. Le retour du refrain nous avertit que nous tardions trop longtemps et nous continuâmes à marcher. Au bout des allées, qui s'ouvrent en éventail, autour du bassin du côté de Trianon, comme dans ces fuites bleuâtres des parcs de Watteau, flottaient de légères fumées dont la vapeur allongeait la perspective aérienne. Le printemps, comme un paysagiste timide qui procède à petits coups dans son feuillet, plaçait sur les branches, d'un pinceau sobre et un peu maigre, quelques touches d'un vert tendre. C'est le moment où les arbres ont tout leur jet et toute leur élégance. Leur structure si fine et si délicate ne disparaît pas encore sous l'épaisseur des frondaisons, et ils ne portent plus cependant la sombre livrée de l'hiver. Sur le rebord du bassin de Cérès, dont l'eau était opalisée par des nuages de savon, des soldats lavaient leur linge et le suspendaient pour le sécher aux murailles des Charmilles. Qu'eût dit de ce spectacle l'ombre du grand roi, si elle erre encore dans le jardin où il se promenait avec Lavallière, Fontange ou Montespan? Elle eût fait sans doute une moue dédaigneuse, et cependant, au point de vue purement pittoresque, la tache garance des pantalons réchauffait le vert un peu froid du paysage, comme ces points rouges dont le coloriste de camp piquait ses gazons. Tout en continuant à gravir vers la terrasse sur laquelle le château déploie sa belle ordonnance, nous regardions à travers les mailles légèrement festonnées de jeunes feuilles d'un treillage détruit un peu par le temps et beaucoup par les hommes, cette portion réservée du parc nommé le Bain d'Apollon, et nous découvrions entre les fûts des arbres un rocher factice d'où tombent les nappes de la cascade quand jouent les grandes eaux. L'abandon, la solitude, les végétations pariétaires lui ont prêté un air naturel que contrarient un peu, il est vrai, les groupes de marbre placés dans les grottes pratiquées au ciseau. Mais ce rappel de l'art n'est pas désagréable au milieu de cette nature composée. Sous cette voûte que soutiennent de lourds piliers à peine dégrossis, se détache d'un fond obscur le roi soleil, le jeune Apollon de Versailles, ayant accompli sa carrière lumineuse et venant se reposer dans le sein de Tétis. Les Nérides s'empressent autour de lui. L'une agenouillée lui délace ses cothurnes, l'autre lui présente une buire de parfum, une troisième le débarrasse d'une partie de ses vêtements, et si la quatrième ne lui présente pas la chemise, c'est que les dieux grecs n'en avaient pas. Ce petit coucher mythologique est fort galant, et Girardon y a mis sa grâce toute française. Les deux cavernes où des tritons remisent les chevaux du soleil accompagnent bien la grotte centrale, et ces trois taches blanches dans le rocher sombre sont d'un effet heureux.